Bonsoir. Excusez-nous pour ce petit retard dû au problème technique. Merci d'être là. C'est la fin. C'est le dernier jour de l'Université du Rond-Point sur le rire de résistance que nous retransmettons tous les jours en direct sur le web grâce à Tilder et qui sera diffusé par France Culture cet été. Alors, j'allais dire on finit en beauté, on finit pas en beauté, j'allais plutôt qu'on finit en génie puisque Fernando Arrabal est une sorte de génie à la fois de la témérité, de l'insolence, du rire de résistance. Depuis qu'il est sur Terre, il bouge les lignes, il renverse les icônes. Moi, je le connais depuis très longtemps parce que j'ai, tout jeune metteur en scène, à la fin des toutes fins, en 69, années 70, j'ai monté le Lait de Barabbas, et c'est là où Andrea Ferréol a d'ailleurs débuté. Vous connaissez tous son théâtre, magnifique, Fando et Lys, le cimetière des voitures, l'architecte et l'empereur, etc. Et je pense aussi qu'il y a toute une approche autour de, je dirais, d'un rire de résistance extrêmement courageux. La lettre qu'il a envoyée à Castro et tout récemment un grand poème sur le clitoris que je suis sûr vous lirez avec saveur. Voilà, je suis très content qu'Arrabal soit là, je suis très content qu'il soit là encore puisqu'il avait été ici avec son très joli spectacle qu'avait interprété Françoise Fabian qui s'appelait Lettre d'amour. Et voilà, donc le dernier des combattants, des héros du rire de résistance, Fernando Arrabal, que je vous demande d'applaudir. Je ne t'abandonne pas, mais je te laisse. Et je voudrais rappeler que, oui, je disais qu'il y avait un petit peu quelque chose de génial et de divin, parce que finalement, j'ai rêvé de mettre en scène, c'est un grand mot, mais de faire participer Fernando à un spectacle. Et je n'avais pas de rôle assez important à lui proposer jusqu'au jour où il y a eu un rôle de Dieu. Et là, je lui ai proposé, il a tout de suite accepté. Merci. Bonne soirée, j'en suis sûr.
Merci. Je crois qu'il y a un malentendu, puisque ça fait au moins 30 ans que j'ai fait rien d'humour. Depuis que j'ai gagné le prix de l'humour noir, j'ai désisté de ce côté. Et j'espère que vous comprenez mon accent britannique. Il y avait là à l'entrée, il y a un professeur du théâtre de l'absurde. Il m'a dit, vous venez au théâtre Topor? Bah, j'ai dit oui. Et parce que vous connaissiez Topor? Et vous? Il dit, non, je ne connais pas du tout. Je suis professeur, je suis une personne sérieuse. Je suis professeur à la Sorbonne. Il a voulu être gentil avec moi. Et il a dit, puisque vous venez au théâtre et Topor, est-ce que vous avez été ami de Topor? J'ai dit oui, j'étais ami. C'était même mon premier ami en France, il y a 40 ans d'amitié. Il dit, ah oui, puisque il était très gentil, ce professeur. Il a dit, puisque si à la place de Topor, c'est vous qui seriez mort, le théâtre s'appellerait Théâtre Arrabal et c'est Topor qui ferait la conférence. Il me dit, vous vous appelez de la Noé? Il me dit, non, je ne suis pas de la Noé. Ah, parce que l'autre jour, on m'a donné un prix. Vous savez, à mon âge, le prix qui devraient avoir eu tous mes amis, qui n'ont pas eu, parce qu'ils sont morts déjà, ben c'est moi qui le reçois. Alors, ce monsieur de la Noé, je crois qu'il est maire de Paris. Alors, il m'a donné le prix Pasolini. Et il m'a dit la même chose. Il m'a dit, est-ce que vous étiez ami de Pasolini? Oui, un peu. Il y a beaucoup d'années, à Rome, on se voyait. Il dit, mais c'est drôle, puisque s'il était ami de vous, et si Pasolini était mort, si vous étiez mort à la place de Pasolini, alors ça serait le prix Arrabal, et c'est Pasolini qui l'aurait reçu. Et je me rends compte que maintenant, très souvent, on m'accueille extraordinairement bien. C'est un bonheur. J'arrive à une ville, Et par exemple, à Rabat, récemment, j'arrive à Rabat, et les gens me accueillent, et tout le monde enthousiaste de me voir, je suis si content. Tout le monde dit, Raval, mais c'est merveilleux, mais vous n'êtes pas encore mort. En réalité, je vais dans le monde entier pour faire des conférences, et c'est parce que mes collègues sont morts. Alors il faut bien appeler, c'est comme ici. Qui pourrait faire la clôture de l'université de la résistance? Évidemment, un dramaturge, mais comme mes collègues sont disparus, ils sont obligés de m'appeler moi. Alors, ce professeur me dit, vous êtes, d'abord je vous félicite. Ben, on venait, hier j'étais en Allemagne, à Nuremberg, et les maires et tout le monde m'a félicité, et j'étais très content. On me félicite, formidable. Et c'était drôle puisque la pièce qu'on jouait, ça s'appelle Les Quatre Cubes, c'est une pièce sans parole et c'était vraiment pas pour avoir un triomphe semblable, mais alors tout le monde m'a félicité parce que c'est l'Espagne, la sélection d'Espagne qui avait gagné au football. Alors le professeur m'a demandé est-ce que ça vous intéresse Cervantes? Oui, un peu, oui. Et il m'a demandé si, parce que c'était quand même curieux qu'il soit professeur du théâtre de l'absurde, et je lui ai fait remarquer que la première fois que le mot absurde a été prononcé dans ma présence, c'était Samuel Beckett. Lorsque je lui ai dit Samuel Beckett, il savait pas bien qui était Beckett. Il me disait, Beckett, c'est un poète espagnol. Non, c'est irlandais. Alors, avec Ionesco, il m'a dit, c'est un moldave, n'est-ce pas? Non, c'est un roumain, c'est espagnol, en réalité c'est français. Et alors, il était très intéressé, je lui dis la vérité, c'est-à-dire la première fois que j'écoutais les mots au théâtre de l'absurde, c'était une fois que chez Beckett, justement, il y a sa femme qui amenait un paquet, et ce paquet avait les livres d'Esline. Le fameux livre d'Esline, par la suite, qui s'intitulait, Esline, c'était un professeur hongrois qui habitait l'Angleterre, il a créé l'expression théâtre de l'absurde. Et lorsque Beckett a ouvert le paquet, qu'il amenait Suzanne, sa femme, Beckett a dit, il nous a vu, nous, la liste habituelle d'auteurs, Ionesco, Beckett, Adamo, Farrabal, il a dit théâtre de l'absurde, quel absurde. Et à partir de ce moment-là, dans les divers pays, on a fait allusion à ce théâtre sur différentes manières de l'appeler. Mais en réalité, tout tournait autour de Cervantes, puisque Cervantes, comme vous le savez, il a fait un roman qui intitule El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. El ingenioso Hidalgo. El ingenioso, ce n'est pas comme on a traduit toujours en français, ingenioso, quelque chose comme ingénieux ou remarquable. Ça veut dire exactement extravagante. À l'époque, ça voulait dire extravagante. Ingenioso Hidalgo. Et là, on revient à la conférence d'aujourd'hui, puisque Cervantes dit ingenioso Hidalgo, Don Quijote, ingenioso Hidalgo. Hidalgo, ça veut dire hijo de algo. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire, qu'on a beaucoup pensé à l'étranger, que Hidalgo, ça voulait dire quelque chose de grandiose. Au contraire, ça veut dire quelque chose de rien du tout. C'est-à-dire, on revient au titre de cette conférence, c'est hijo de n'importe quoi, fils de n'importe quoi. C'est-à-dire comme cette conférence. Cette conférence, en réalité, pourquoi j'ai tenu à la donner, ça m'a mis beaucoup de la donner, puisque c'est une conférence dans laquelle on pourrait réfléchir sans aucun humour à ce qui a été la pensée du théâtre au XXe siècle et la différence qui existe avec aujourd'hui. Pourquoi nous vivons aujourd'hui un moment de si grande Renaissance théâtrale. Et pourquoi le XXe siècle nous a charmés avec des écrivains, l'un étant fasciste et l'un étant communiste. C'est mes maîtres, les deux sont mes maîtres. Un des maîtres s'appelle Pirandello et l'autre maître s'appelle Bertolt Brecht. Lorsqu'à Bertolt Brecht et Pirandello, on les a demandé de raconter pourquoi ils s'écrivent, que c'est finalement ce qui nous intéresse à nous tous. Pourquoi nous écrivons? C'est presque de la même manière les staliniens Bertolt Brecht et les fascistes Pirandello, presque ils ont répondu de la même manière. Et ça nous intéresse parce que nous n'écrivons pas semblable. Cette renaissance que nous vivons dans les catacombes, dans les catacombes du théâtre, pas les grands théâtres, mais c'est ce petit théâtre qui fait constamment un effort pour la création, ça se passe comme réponse à la pensée de Pirandello, que je vois que ça vous intéresse passionnément, et encore, vous avez beaucoup de chance, parce que normalement, je fais des conférences dans lesquelles je parle pendant une demi-heure de jeux d'échecs et de mathématiques. Je vois que l'émotion est grande dans la salle. Qu'est-ce qu'il dit Pirandello et qu'est-ce qu'il dit Bertolt Brecht, mes deux maîtres? Pour faire une parenthèse, il faut rappeler que lorsque Pirandello gagne le plus stupide, celui que je refuserai, évidemment, c'est-à-dire le prix Nobel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli le prix Nobel, il se l'a donné à son maître, c'est-à-dire à Mussolini, puisqu'il était fasciste dans le vrai sens du mot. Ce qui n'empêche qu'il était un formidable auteur dramatique, mais aussi formidable auteur dramatique que Pirandello était Bertolt Brecht. Et lorsque Staline, que c'était un homme que, comme vous le savez, j'admire beaucoup, puisque si j'écris une lettre contre le général Franco, j'écris une autre lettre pour Staline, dans laquelle je raconte beaucoup de choses de Staline. Alors, lorsque Staline, on l'a proposé en 1952, de donner un prix au plus grand dramaturge qui avait le monde soi-disant libre, c'est-à-dire le monde communiste, il a dit, on va lui donner à Bertolt Brecht, on dit, ses camarades, et on va lui donner le prix Staline des théâtres. Et Staline, qui était un connaisseur, malheureusement, qui était un homme très très cultivé, malheureusement, au point qu'il était comme moi, passionné de mathématiques, passionné de biologie moléculaire, c'est pour cela qu'à l'aide de Lichenko, il a fait des tomates, de la taille des pastèques, ce qui était une catastrophe pour l'agriculture soviétique. Lui, qui était non cultivé, il a dit la vérité, nous ne pouvons pas donner le prix Staline de théâtre à Bertolt Brecht, parce que Bertolt Brecht n'a pas écrit du théâtre depuis qu'il est en Allemagne, à Berlin-Est. Donc, mais qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est des grands génies du théâtre, ce qui va illuminer tous les théâtres du XXe siècle, tous ces théâtres que je considère un théâtre des titans, de ces titans qui ont rêvé de faire un monde meilleur, mais qui était une véritable catastrophe. Ce sont comme Franco, comme Staline, comme Hitler, comme Mussolini. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé? Quel était le théâtre qu'ils ont imaginé? Ils ont imaginé un théâtre formidable. Il va le décrire Pirandello. Pirandello dit, toutes les nuits, il y a une femme qui vient me voir. Et c'est une femme habillée de noir. Et cette femme va méditer mes pièces. C'est la même chose qui nous arrive aujourd'hui à nous. Et cette femme était spécialiste de philosophie, spécialiste de mathématiques, spécialiste de l'amour, de pornographie et de l'amour le plus pur. Et qui est cette femme? Et il a dit ces mots. Vous les trouvez dans la préface des six personnages à la recherche des notaires. Il dit, cette femme est fantasia. Et Bertolt Brecht, l'autre extrême des titans, pensait la même chose. La femme était fantasia. Mais nous avons fait un autre théâtre. Le troisième millénaire, nous avons conçu notre théâtre. Qu'est-ce qui vient nous voir à nous aussi? Si on était de la beauté de de Gary Cooper, on ne ferait pas des pièces de théâtre, mais on reste la nuit à écrire. Et qui vient nous visiter? Aussi une femme qui est aussi riche d'intelligence, aussi riche de mémoire, aussi connaissance de philosophie, de mathématiques, de jeux d'échecs, d'amour de l'amour. Mais quelle est la différence avec l'autre? Elle n'est pas habillée de noir, elle est habillée de toutes les couleurs. Et elle n'est pas fantasia. Elle est une propriété qui est à la portée de nous tous. C'est-à-dire, elle s'appelle l'imagination. C'est-à-dire l'art de combiner les souvenirs. C'est pour cela que nous avons vécu sans aucun mérite. Nous avons vécu tous les avatars de la modernité. Et c'est plus possible maintenant de répéter cette démarche. Les avatars de la modernité, c'est-à-dire les groupes surréalistes, les paniques et la pataphysique, ces trois avatars de la modernité, nous les avons vécus comme seuls survivants. C'est plus possible. Maintenant, on ne peut plus possible, puisque les premiers d'entre eux, Breton est mort en 66, et avec eux, a cessé d'exister le groupe surréaliste, s'est suicidé le groupe surréaliste, n'a pas voulu continuer. Mais nous avons vécu au groupe surréaliste pendant 3 ans des moments inoubliables, des moments avec Jodorowsky. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la présence de Topor dans le groupe surréaliste, mais Topor n'a jamais été dans le groupe surréaliste. À Topor a eu l'honneur d'être invité au café surréaliste. Shakespeare a dit la rose s'appelle la rose, il ne pouvait pas s'appeler d'une autre manière. Sur le temps, il a dit des choses semblables qui pouvaient rencontrer Einstein. Et lorsqu'il a été invité au groupe surréaliste, au bout de 10 minutes, ne supportait pas la situation et les cultes de la personnalité qu'il y avait là-bas, et il a décidé de partir. Il m'a demandé à moi où se trouve le cabinet, et Topor est disparu, il n'est jamais revenu. Comment était agréable, extraordinaire pour nous, et les groupes surréalistes, parce que tant Jodorowsky que moi, avec Topor, on avait créé le groupe Panique. Et Breton nous acceptait malgré cette fondation. Pourquoi on se trouvait bien? Parce qu'on venait, dans les cas de Jodorowsky et de moi, pas dans les cas de Topor, on venait des pays de dictature, lui d'un Chili nauséabonde et moi d'une Espagne franquiste encore plus nauséabonde. Donc on se trouvait dans les groupes surréalistes, on se trouvait parfaitement bien. On était heureux. Pourquoi on était heureux? Parce que on se sentait dans les deuxièmes avatars de la modernité. Les premiers avatars de la modernité, que nous n'avons pas connus, on était trop jeunes pour cela. Les premiers avatars de la modernité étaient Dada. Et Dada avait prétendu, à travers des premiers manifestes, que la morale n'existait pas et que dans l'art et dans l'amour, tout était possible. Les surréalistes vont répéter ces deux piliers pour la création du surréalisme. Et ils vont ajouter un troisième pilier, c'est-à-dire celui qui n'accepte pas ces premiers piliers sera éliminé, sera expulsé. Ce qui a provoqué des situations cocasses qui se sont répétées, des situations aussi dramatiques, puisqu'on provoquait la mort et le suicide, certains, parce qu'ils étaient d'une morale qui n'acceptait pas Breton. Mais le premier acte de la modernité, c'est-à-dire Dada, se célèbre dans un cabaret de Zurich qui a été éliminé récemment par la municipalité de Zurich, qui s'appelait le cabaret Voltaire. Et d'après un professeur à la Sorbonne, dans ce cabaret s'est déroulé l'acte dans lequel le nom de Dada a été inventé. Ce même professeur a été chercher le premier manifeste Dada. Il se demande qui l'a pu l'écrire. puisqu'il y a des possibilités. Il y a des personnes étrangères qui parlent pas très bien le français et qui l'écrivent encore plus mal, sont à ce moment-là Lénine et Tristan Tzara, un russe et un roumain. Il se trouve que tous les deux vivent dans la même rue. Le destin a voulu, comme dirait Shakespeare, que cette rue s'appelle la ruelle, c'est une ruelle, une rue sans sortie, s'appelle la ruelle du miroir, Spiegel. Et Tristan Tzara et Lénine s'est attesté, ils sont beaucoup joués d'échecs, ils se sont beaucoup intéressés à ce nouveau mouvement, des types qu'ils considèrent, Lénine considère nihiliste, et que probablement, dit le professeur, inspire aux deux étrangers. Les deux étrangers vont écrire sur Dada, et le professeur a démontré que le manifeste dadaïste est un écrit de la main de Lénine, ce qui est probablement vrai. Il a démontré à travers de l'analyse des mots, et probablement soit vrai que le premier manifeste dadaïste soit de Lénine, et même il ajoute qu'il est possible qu'il soit le propre Lénine qui a créé les mots dada. Il donne une explication un peu loufoque dans laquelle je ne crois pas trop. Et cette explication loufoque qu'il donne, c'est que dans la cabaret Voltaire, Tristan Tzara, j'ai bien connu Tristan Tzara à la fin de sa vie, et j'ai connu un homme très sérieux. Il venait au dîner de chez Nathalie Sarraute, et je ne l'imagine pas dans la situation qu'il a décrit la légende. La légende raconte que Tristan Tzara va au cabaret Voltaire avec ses amis qui ne s'appellent pas encore dadaïste, rénovateur, l'avant-garde qui s'appelle à ce moment-là, va dans ce cabaret, on joue une heure de danse, et Tristan Tzara, avec un tutu, se met un tutu, il est complètement nu, de telle manière que paraît-il qu'on voit ses valses, et il danse à ce moment-là. Les publics du cabaret Voltaire, qui étaient habitués à des spectacles rénovateurs, quand même n'a pas apprécié cet spectacle, ce qui a provoqué des cris dans la salle qui disaient « non, non, non », auquel aurait répondu lui, Dada. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Le destin est extraordinaire, puisque le destin veut qu'il se passe beaucoup de choses dans ce moment-là. Tous les gens que j'ai connus, tous ces gens-là qui ont parfumé ma vie, des connaissances, qui, depuis Dali, Picasso, Breton, Beckett, Ionesco, j'ai jamais connu un seul, même pas Dali, qui soit provocateur. Je crois que la provocation, comme le succès, comme l'amour, c'est un mystère, on ne sait pas pourquoi il arrive. Et le monde nous donne des preuves évidentes et constantes. Moi-même, par exemple, que je suis un auteur insignifiant, très peu joué, en France surtout, il se trouve qu'il y a des pièces qui sont très jouées. Il y a des pièces comme Fan d'Ulysse, au Pique-nique en campagne, qui sont très jouées, et d'autres qui ne sont jamais jouées. Et on se demande pourquoi. Donc, il y a un mystère toujours, et c'est la présence que nous avons soulignée, et je crois que c'est l'originalité de Panique. Cette originalité, c'est que nous avons souligné la présence de la confusion et la présence du hasard. Nous avons souligné la présence de la confusion et du hasard parce que nous nous intéressons à la science, de la même manière que la pataphysique. Pourquoi la pataphysique est grande? Pourquoi la pataphysique n'est pas un mouvement comme les autres? Je le connais très mal. Les jours que la pataphysique nous a fait l'honneur de nommer les cinq transcendants attrapés vivants aujourd'hui, un des cinq, hein, les trois autres étaient Baudrillard et Dario Fo, Umberto Eco se tourne vers moi et me dit à Raval, puisque vous êtes nommé Transcendance Attrape, qu'est-ce que c'est la pataphysique? Je lui dis, mais vous êtes nommé aussi Transcendance Attrape, moi je ne sais autant, je ne sais rien du tout sur la transcendance, sur la pataphysique. Ce que je sais, c'est que la pataphysique, c'est la science, Et c'est une science qui cherche l'exception. Pas qui cherche, qui signale l'exception. Et tout d'un coup, on se rend compte que c'est qu'il y a un tort que nous avons souffert tous. Nous avons pensé tous qu'Arabal, Topor et Khodorkovsky, les créateurs de panique, nous avions souligné, non, nous n'avions pas souligné, nous défendions la confusion, mais pas du tout. Aucun de nous. Nous sommes passionnés de mathématiques. J'ai fait réunir récemment les collèges de pataphysique. Ça, c'est vrai. Pas nous, les transcendants satrapes, que nous ne savons rien du tout, mais les vrais connaisseurs des collèges de pataphysique, à la tête desquels se trouve Thierry Foulque. Je les ai réunis chez moi pour parler de mathématiques. Et parler de quoi? Du principe d'incomplétitude de Gödel. Pour savoir si c'était vrai ce que Gödel a dit dans la lettre, la fameuse lettre, extraordinaire lettre à sa maman, peu avant de mourir, cet homme que moi je crois comme Einstein et comme Oppenheimer, je crois qu'il était l'homme le plus intelligent de son époque. Il est mort tout simplement il y a 30 ans. Cet homme qui se promenait tous les jours en Princeton avec Einstein. Et cet homme que peu avant de mourir écrit à sa maman, il va se laisser mourir de faim. C'est pas extraordinaire? Se laisse mourir comme une modèle de chez Chastel, je ne sais pas comment il s'appelle. Et cet homme dit à sa maman, « Maman, j'ai la preuve. J'ai la preuve mathématique. Elle est presque égale que les arguments ontologiques de Saint Anselme. Et cette preuve est que Dieu et les diables existent. » Et j'ai réuni les pataphysiques chez moi pour discuter de ce sujet. Et là, nous avons compris. Enfin, eux, ils ont compris. Moi, j'ai compris à travers eux. Nous avons compris de ça. Nous avons compris que eux ne cherchent pas l'exception, mais signalent l'exception. De la même manière que nous, confusion. Au long de l'humanité, tous mes maîtres ont parlé de confusion. Et de quelle manière Socrate parlait d'ambiguïté. Mon maître, mes vrais maîtres, c'est-à-dire Shakespeare, Montaigne, c'est... Les mathématiques d'aujourd'hui, la science, la physique d'aujourd'hui parlent des principes d'indétermination et nous parlons de confusion. Nous ne voulons pas la confusion. Tout est tellement confus. Et maintenant, lui qui parle de Dieu, qui parle de diable, moi je suis disposé, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, ça ne nous gêne pas, ni aux pataphysiques, ni à nous, qu'on puisse démontrer l'existence du diable. Puisque lorsqu'on pense à Dieu, qui est Dieu, remarquez une chose, Shakespeare et Cervantes vont parler d'ambiguïté. Et de la même manière, et Dieu les fait mourir tous les deux. Il veut nous signaler que ces hommes sont en train de dire quelque chose de magistral et de coïncidence. Et il va faire une coïncidence. Il va les faire mourir le même jour. C'est extraordinaire. De les faire mourir à Shakespeare et à Cervantes le même jour, du même mois, du même année. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Que Dieu ne croyait pas peut-être aux paniques. Que ne pensait pas aux paniques, Dieu. Et ils sont morts le même jour. Mais là, sous les calendriers anglicans. Et Cervantes, sous les calendriers grégoriens. Avec une semaine de retard. Pourquoi? Parce que c'est une évidence. Dieu voit tout, même lorsqu'on est au cabinet. Dieu écoute tout. Mais Dieu confond tout. C'est pour ça que nous les avons réunis. C'est pour ça la grâce, cette renaissance. Pourquoi cette hostilité qui avait nos majeurs, ces génies qu'on a aimés, comme par exemple cette hostilité de Picasso, cette hostilité de Breton, pour la science? Pourquoi? Je me souviens, lorsque j'arrivais le soir, très souvent, Breton me disait, Arabal, vous et Marcel Duchamp, toujours avec votre éternelle partie d'échec. Mais qu'est-ce qu'il y avait de mauvais? Vous et Marcel Duchamp, toujours avec vos problèmes de topologie. Mais évidemment, grâce soit donnée à Dieu, on s'est préoccupé par la topologie. C'est ce monde qui est en train de nous attirer. Je vais finir pour vous dire une chose. Comme vous voyez, vous attendiez tous une conférence désopilante, très drôle d'Arval. J'ai fait un effort pour être aussi barbative que possible. Et vous m'avez écouté. C'est merveilleux, vous devez venir à toutes mes conférences. Un public comme vous, je ne peux pas rêver de mieux. Et je vais vous dire une chose de vous, que vous êtes tellement docile, que vous m'avez écouté même lorsque j'ai parlé des mathématiques. Et encore, j'aurais pu être pire. Tout. Lorsque je vous ai dit que le destin a voulu que je sois le seul vivant à avoir passé pour tous ces avatars, le seul vivant qui a connu à tous ces grands génies, je les ai connus toujours par hasard, toujours intervenu la confusion, toujours c'est une exception. C'est l'exception pataphysique. Cette exception pataphysique qui nous parle des nombrils. C'est pour ça qu'il y a la créatrice du théâtre des nombrils, un nombriliste qui est là par hasard. Parce que ne partez pas vous, madame, je vous donne 10 euros. 20 euros. 20 euros tout de suite. Qu'est-ce qu'il va dire ma grand-mère? Et je vais finir. Parce que d'autre part, il va partir tout le monde. Je ne vais pas jouer les anciens combattants. Mais, comme vous savez, je n'ai jamais fait partie d'aucun parti politique. C'est dommage, finalement, j'aurais dû faire partie d'un ou deux. Mais néanmoins, ce n'est pas seulement que j'étais le seul à écrire au dictateur, au Franco, à la mort de Franco. Je me suis rendu compte, avec l'horreur, que j'étais le seul, et j'ai compris tout de suite mon gravissime erreur. Écrire à Franco, comme je l'avais fait lorsque Franco était vivant, c'est une erreur capitale. J'ai reçu des bombes. Mes pièces étaient totalement interdites. Mon œuvre était complètement interdite. Quelle erreur! Il fallait faire comme les autres, attendre la mort de Franco. Et à ce moment-là, écrire la lettre à Franco. Et Franco, que visiblement devait, je suis sûr qu'il m'admirait, c'est pas possible. Et voilà qu'un jour, il me met en prison. Tout d'un coup, il s'est rendu compte, ces tyrans, ces dictateurs sont quand même spéciaux. Tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il avait un seul cadeau qu'il pouvait me faire et que je pouvais accepter, c'est-à-dire la prison. Donc, j'étais en prison, très bien traité, hôtel gratuit. Et on m'a condamné à 12 années de prison. Je vais finir avec ça, ne vous inquiétez pas. Je dois passer 12 années en prison parce que j'ai écrit un blasphème. Alors que, comme vous voyez, je m'intéresse même à Gödel, je m'intéressais toujours aux déistes, même à la limite, j'étais défendre. Je crois qu'on était 4 ou 5 qu'on a défendu à Houellebecq. Lorsqu'il a dit plus ou moins merde à Dieu. D'ailleurs, c'est passé un moment capital dans l'histoire de la magistrature française. C'est lorsque le président du tribunal m'a demandé Arabal, Fernando, dites-nous à ce tribunal quelle est votre profession. Ça s'est passé il y a 300 ans. Quelle est votre profession? Alors j'ai réfléchi parce que quelle est ma profession? Je ne le sais même pas. Alors j'ai dit la vérité, je suis piéton. Alors le président a dit « Notez poète, pour papa. » Alors, on remonte, vous voyez, j'ai eu les anciens combattants il y a 40 ans, Franco, enfin, le gouvernement franquiste, peut-être Franco si même pas se rendit compte, il me met en prison, et là, va avoir un moment dans lequel vous tous, vous êtes concernés, parce que je trouve que vous êtes admirable. Une conférence, qu'est-ce que c'est une conférence? Ce n'est pas une chose pour vous faire rire, c'est une chose habitée ou non habitée. C'est comme un poème qu'on écrit. Un poème, on ne peut pas le préparer. Un poème, c'est un happening. Un poème, c'est comme aujourd'hui. Ça dépend de vous. C'est grâce à vous que ça commence à marcher. C'est dommage que ça dure un peu plus. Alors, c'est très dramatique ce que je vais raconter. Donc je suis en prison, et là, Il y a même Aragon qui me défend. Par la suite, Aragon, qu'est-ce qu'il était gentil. Un jour, il y a un autre poète ami à moi qui était dans une sorte de goulag, prisonnier. Et c'est, à mon avis, c'est le plus grand poète de langue espagnole. Et j'ai créé un comité. Tout le monde est ici. Lévi-Strauss, Roland Barthes, enfin tous, la fine équipe, Derrida, il y a Paul Sartre, tout le monde est là. Et tout d'un coup, j'appelle Aragon. Et ce poète est dans un goulag communiste à Cuba. Et je l'appelle au téléphone. Il sait très bien que ce poète est un très très grand poète. Et je l'appelle, on m'a donné, Monsieur Luis Aragon, oui, c'est moi. Et voulez-vous faire partie de ce comité que nous avons créé pour la défense de ce poète qui se trouve à La Habana, enfermé? Et lui, merveilleux, quelle voix magnifique. Il me dit, non, monsieur Raval, je serai enchanté de signer, de former partie de ce comité, mais moi j'ai fait déjà partie de notre comité. Ah bien, excusez-moi, mais à ce moment-là, je me rends compte que depuis toujours, je suis un homme célèbre, je suis un homme qui traverse les frontières, que même les plus grands poètes du monde me connaissent, que même... Et Aragon me dit, oh, monsieur Raval, j'étais très content de parler avec vous, j'adore toutes vos chansons. Bah, écoutez, récemment, vous avez la chance, quelle chance, je ne peux pas imaginer, c'est une chance que je ne peux pas avoir, ni mes amis, par exemple, la Zorra ne peut pas l'avoir, parce qu'elle connaît tout mon cinéma. Mais j'ai fait 7 longues métrages, et j'ai fait un long métrage avec un acteur américain très célèbre, vous connaissez aucun, marié avec Ava Gardner, qui était comme moi, exactement comme moi, c'est-à-dire 1m60, très beau, très très beau, et un charme. À un moment donné, je l'ai fait, c'est un homme qui a eu 9 épouses, et à un moment donné, dans mon film, qui s'appelle L'Empereur du Pérou, que j'ai fait avec lui à Hollywood, il y a Montréal, je l'ai fait dire ces mots. Oui, il parle à des enfants, il dit, je suis spécialiste de l'amour et du mariage, parce que je me suis marié 9 fois, ce qui était son cas. Alors, à ce moment-là, cet homme, ce grand acteur, tout d'un coup, vient, le premier jour du film, vient me voir. N'oubliez pas que j'ai une autre chose à raconter encore. Vous n'allez pas dormir tout de suite. Alors, je vois Mickey Rooney pour la première fois de ma vie. Il y a toute l'équipe, une centaine de personnes autour de moi. Ses premiers mots, Monsieur Arabal, je suis très, très, très content de que vous soyez le metteur en scène de ce film. Là, c'est la joie. Je me suis dit, ça veut dire, c'est la preuve de qu'à Hollywood, le soir, tous les acteurs se réunissent pour parler d'Arabal. Et alors il ajoutait, oui, je suis très content de que vous dirigiez mon film, parce qu'enfin, je vois mettre en scène des tailles humaines. Donc, passons au chapitre de l'amour, et au chapitre du sérieux, que c'est celui qui me plaît. Donc, lorsque je suis en prison, je serai libéré, parce qu'il y a 5 soldats, les plus modestes de la littérature en ce moment-là, qui viennent me défendre. Et ces soldats si modestes de la littérature sont Vicente Aleixandre, le grand poète, Camillo José Cela, le grand romancier, Elias Canetti, le grand philosophe, le grand essayiste, Octavio Paz et Samuel Beckett. Ces légions, ces brigades de 5 soldats vient me défendre. Et Dieu, qui voit tout, qui écoute tout, et qui des fois ne confond pas tout, à peine ils m'ont défendu, que les 5 deviennent prix Nobel, pas des soldats à maréchaux. Heureusement qu'il y a certains qui ne sont pas venus. On se trouverait avec des prix Nobel tout à fait rarissimes. Et alors, Samuel Beckett, les gens me demandent de quoi tu parlais toujours avec Beckett, avec Ionesco, avec Marcel Duchamp, avec Dali. Je dois dire la vérité. Moi, j'ai parlé surtout et presque exclusivement des mathématiques, des jeux d'échecs, des théâtres et un tout petit peu de Dieu, un peu plus avec Ionesco. Lorsque j'arrivais les dernières années de la vie de Ionesco. J'allais les voir presque tous les jours parce que j'étais régénéré par les talents. C'était comme l'homme le plus intelligent que j'ai connu de ma vie, c'était Topo. C'est pour ça qu'il n'a pas la place qu'il devrait avoir. Il a la place ici seulement. Il devrait avoir un théâtre comme ça dans le monde entier. Et lorsque j'allais les voir à Ionesco, les conversations avec Ionesco commençaient toujours de la même manière. Il était très faible, il pesait à peine 40 kilos à la fin. Et il disait, sa femme fumait dans un divan à côté, la merveilleuse Rodica qui vient de mourir. Elle était là, et Beckett et Ionesco commençaient ces conversations toujours de la même manière. Ah, Fernando, toi et moi, que nous sommes agnostiques. Et Rodica toujours commentait, pas si agnostique que ça. Et Beckett, on ne connaît pas de Beckett aucun test théorique. Vous le savez, aucun. Il n'a écrit que ses romans, ses pièces, ses poèmes. Mais jamais, jamais un test théorique. Jamais on ne sait pas sa pensée. Sa pensée, c'est comme la mienne. J'ai analysé un millier de parties d'échecs. Et dans ces parties d'échecs, comme dans mon théâtre, comme dans mon œuvre, j'ai dit toujours la même chose. Si les blancs jouent X, les noirs répondent par Y. Jamais un commentaire. Jamais une analyse de test. Ça, c'est laissé pour mon cher professeur, celui qui est spécialiste de l'absurde, Ion Beckett, qui s'est exprimé uniquement que par ses personnages, comme Murphy, comme le personnage de Nathan Dangodo, cet homme, mais il n'est pas là, quelle tristesse, cet homme écrit sur vous, va écrire sur vous, parce que vous avez une pensée quand même, comme moi, un peu cachée, sur l'art. Et Beckett va écrire sur vous, que vous avez été si patient. Et si je vais finir avec ça, et vous verrez qu'on attend le rire, c'est pour ça que je vais vous donner les larmes. Nous allons finir par les larmes. Et Beckett dit au tribunal, parlant de vous, il dit, vous avez fermé en prison à Fernando Arrabal. C'est comme s'il parlait de vous. Et Fernando Arrabal, c'est un poète, c'est un dramaturge. Et il faut le libérer, parce qu'il pense que vous devez être libre pour écrire. Et il ajoute ces mots avec lesquels je finis cette conférence. C'est beaucoup ce qui doit souffrir un écrivain, dont vous, pour écrire, n'ajoutez rien à sa propre peine. Merci.